Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview de notre événement Manager Demain. Aujourd'hui, on va parler de pression. On va parler de gestion de cette pression, puisqu'en tant que manager, dirigeant ou professionnel des RH, ce sont des situations qui sont en général très difficiles à gérer et qui peuvent altérer notre confiance. Et donc, pour pouvoir nous aider, nous avons une invitée extraordinaire aujourd'hui, Aurélie Durand. Alors, Aurélie, vous allez voir, elle est psychologue, coach, autrice, co-animatrice d'un podcast, elle va vous en dire un petit peu plus. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir notre invitée, Aurélie Durand. Bonjour Aurélie et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Clément, ben merci beaucoup pour ce tonnerre d'applaudissements, c'est très sympa de pouvoir comme accueil.
Avec grand plaisir. Eh bien, Aurélie, tiens, ce que je te propose, puisque j'en ai dit un petit peu sur toi, mais je suis volontairement resté succinct parce que moi, ça m'intéresserait justement que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, ton parcours et notamment ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet en tant que psychologue coach de des situations de tension, d'enjeux, tu sais, qui viennent parfois rigidifier le fonctionnement humain, n'est-ce
Ouais.
pas? Donc, c'est vraiment c'est un sujet très particulier. Donc, dis-nous un peu plus, voilà, quel est ton parcours, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à
Alors,
traiter ce sujet-là?
déjà, en fait, j'ai envie de te répondre en te disant bah, pourquoi je suis psy et pourquoi je suis coach. Hein. Donc, en fait, j'ai envie déjà de te dire que ouais, c'est un sujet très humain et en fait, on n'est jamais psy par hasard en fait. Hein. Donc, en fait, j'ai un parcours perso qui m'a amené à naviguer dans des situations émotionnelles complexes. J'en ai connu beaucoup, j'ai plongé dedans. L'avantage, hein, c'est que maintenant, je sais les repérer, je sais les analyser et les transformer du coup en création de valeur. Alors, ça, c'est psy, mais alors maintenant, pourquoi est-ce que je suis devenue coach? Parce que c'est quand même pas exactement la même chose, même si ce sont des métiers connexes. Le psy, il est plutôt dans l'analyse, dans l'écoute, dans l'accueil et puis dans l'accompagnement d'une transformation. Le coach, il est aussi dans un accompagnement de transformation. Alors, moi, je suis coach professionnel en plus, et alors pas deux LE, professionnel avec juste un L, c'est-à-dire du monde professionnel. Et en fait, ben, je suis coach parce que je suis issue d'une famille d'industriels et j'ai toujours été très sensible à la place de l'homme dans l'entreprise. Et en fait, ben, j'ai démarré mon parcours après ma formation de psy, non pas en tant que psy, mais en tant que consultante en organisation. Donc, encore rien à voir. Tu vois, dans la conduite du changement RH. Et après avoir fait ça pendant 6 ans, ben en fait, j'ai évolué vers une responsabilité opérationnelle de manager RH, où là, j'ai découvert que j'étais une manager stressée, stressante. Donc, je donne aussi le revers de la médaille, parce que j'ai pu vivre moi également. Et puis, ben, en 2010, j'ai voulu quitter le monde en fait, du process pour revenir à l'humain. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir coach. Donc, en fait, j'ai cette double casquette. Et quand en 2020, donc maintenant, moi, ça fait 15 ans que je suis coach, et donc ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les sujets humains avec mon côté psy, parce que donc, même dans le conseil, j'étais sur les sujets d'accompagnement au changement et d'organisation. Et quand en 2020, j'ai créé ma propre structure de coach, ben, je me suis spécialisée dans ce que je connaissais le mieux in fine, hein, c'est-à-dire le détricotage de situations émotionnelles qui nous mettent tous sous pression. Alors, après, effectivement, ce que tu mettais un peu en introduction, hein, dans ces sujets d'humains, c'est que ça rigidifie, enfin, on se rigidifie sous le coup de, enfin, on va en parler, hein, qu'est-ce qui rigidifie et qu'est-ce qui met sous ce coup de pression, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on en est là? En fait, tout ça, ça dépend de chacun. Et c'est dans les situations de tension, et de pression, que ça soit sur le plan pro ou perso, que en fait moi j'ai vu énormément de gâchis dans ces situations-là, du gâchis de bonheur, du gâchis de création de valeur, à cause de ces fameuses rigidifications, à cause de projections aussi, à cause d'interprétations, à cause de comparaisons, à cause de jugements en fait que notre cerveau peut avoir, ou que nos émotions font qu'on voilà, enfin que nos émotions nous bernent un peu, voilà. Donc moi, quand j'ai vu cette perte de création de valeur et que je l'ai vécue, ben en fait c'est ça en fait que sur lequel j'ai voulu me spécialiser. Et donc c'est pas vraiment sur les tensions qui sont en amont, mais c'est vraiment sur accompagner les individus et les équipes et les dirigeants managers ou collaborateurs, mais donc c'est surtout souvent des managers et des dirigeants des équipes, sur comment se confronter à ces tensions dans le monde du travail, comment reprendre la main, comment ne plus y subir, parce que des tensions, il y en aura toujours. Voilà, malheureusement. Mais l'enjeu est de savoir de faire avec, sans se perdre, sans s'abîmer. Voilà. Donc, j'aime l'humain et je suis convaincue qu'on a tous un noyau sain et que parfois, c'est le système, le contexte qui nous plante, mais qu'on a les ressources en nous pour pouvoir mettre les bons comportements et créer de la valeur. J'ai beaucoup parlé.
Mais c'est parfait. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre justement ton intérêt par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, j'aimerais en profiter. On voit derrière toi en backup ton livre que tu as coécrit, le SAV des managers, donc aux éditions Vuibert. Donc, c'est que tu as coécrit avec Fabienne, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Donc, le SAV des managers qui est derrière, ça, c'est une petite pépite qu'on a coécrite. Enfin, moi, je dis pépite parce que c'est vraiment le compagnon de route. Petit, j'en sais rien, c'est quand même un bouquin. Il y a 200 pages, il y a 30. Dedans, vous allez trouver 30 situations, en fait, classiques, typiques du monde que tous les managers rencontrent, même si on est expérimenté, ça vaut le coup aussi de redescendre, aller voir qu'est-ce qu'on peut dire dans cette situation, parce que finalement, on les vit tous au quotidien. Et avec Fabienne Broucaré, donc, qui est rédactrice en chef de Courrier Cadre, on a coécrit ce bouquin pour soulager, accompagner les managers, et dedans, vous y trouverez une analyse, un détricotage de ces situations avec un accompagnement à la prise de recul, des clés de lecture, des questions à vous poser si jamais vous vous retrouvez dans ces situations-là également, et puis aussi des regards et des apports d'experts complémentaires qui permettent d'ouvrir un peu les chakras ou qui permettent de mettre en réflexion. Il y a des philosophes, il y a des DRH, il y a des psychologues du travail dédié à la santé mentale, des chercheurs, en fait voilà, on a énormément de regards, et puis il y a aussi des partages de témoignages de managers expérimentés qui racontent leur plus gros caillou dans la chaussure. Et quand je parle de caillou dans la chaussure, ça te fait sourire. C'est en référence au fait qu'en fait, ce bouquin est issu et la suite logique d'un podcast qu'on co-anime toutes les deux avec Fabienne depuis maintenant 2 ans et demi, qui s'appelle « Les petits cailloux », parce qu'on a tous des petits cailloux qui nous empêchent de marcher dans la chaussure et qui empêchent de faire qu'on est bien dans nos baskets de manager. Et ces petits cailloux, c'est ces fameuses situations. Donc là, vous en avez 30 dans le bouquin. Dans les petits cailloux, en tout, alors il y a des inédites dans le livre, mais là, en tout, on doit être à 52 épisodes, je crois. On en sort un par mois là, maintenant. Sur ce sujet-là. Donc, effectivement, les petites tensions du quotidien, ça fait partie des sujets que j'accompagne, mais en coaching, je suis plutôt sur des sujets de situations complexes où on a tendance à se mettre dans la confusion. Voilà.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu es plutôt dans les gros cailloux.
Exactement. Malheureusement, il y en a. Voilà.
Il y en a. Ben, ce que je te propose, c'est que justement, on aille vers ces gros cailloux. C'est-à-dire que, prenons un cas classique, on va dire la pression monte dans une entreprise. Mm-hmm. Déjà, la pression monte. Qu'est-ce qui, selon toi, se passe généralement dans les relations, les décisions et la confiance au sein de cette entreprise?
Alors, quand tu dis pression, en fait, c'est de quelle pression est-ce qu'on parle? Parce qu'en fait, on vit la pression de l'environnement extérieur, mais on se met aussi la pression soi-même. Donc, quand on parle de pression, c'est qu'il y a, en fait, si je tire le fil, c'est qu'il y a une tension, un déséquilibre, toi je fais ça, un déséquilibre entre les contraintes et les ressources, entre ce qu'on souhaite et ce qu'on a, entre notre rythme et celui de l'extérieur. En fait, la pression, c'est ce qui pèse sur nos épaules. Et généralement, plus on est sous pression, plus on perd en discernement, plus on perd en lucidité. Mais attention quand même, il y a aussi de la bonne pression. Il y a celle qu'on sait réguler justement dans notre fameux équilibre. Mais quand on ne sait plus la réguler, c'est là que ça craque. Et c'est là que notre cocotte minute émotionnelle, nerveuse, elle explose. Donc souvent, on dit que les émotions, elles n'ont pas leur place dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas les émotions qui n'ont pas leur place, parce que de toute façon, on ne les empêchera pas, les émotions. Elles sont là à l'intérieur de nous, elles existent. C'est du réel, c'est du ressenti. Par contre, c'est la non-régulation, je dirais, qui a pas sa place. Et beaucoup disent en fait qu'ils ont pas d'émotion. Moi, je vois très souvent des profils. Alors, j'irai pas faire des caricatures de dire homme-femme, ingénieur, pas ingénieur, voilà. Mais il y a des pro-personnes, parce que ça, c'est une caricature qui est absolument fausse. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire que ils ont pas d'émotion. En fait, non, c'est qu'ils ont pas appris. En fait, à les repérer, à les qualifier, mais dans tous les cas, qu'ils en aient, qu'ils n'en ont pas, ils vivent la pression. Ça, c'est bien de sûr. Toute façon, ils la vivent, en bon ou en mauvais. Et la pression, donc, bah, ça impacte le système nerveux, hein, qui doit se réguler et qui nous amène, du coup, à avoir un comportement réactif en réponse à un environnement. Et je vais arriver hein, sur le sujet des relations, des décisions et de la confiance. Mais du coup, la pression, elle nous amène à un comportement réactif en réponse donc à quelque chose qui ne nous va pas. Et on a besoin de la décharger. Hein, c'est vraiment et ce comportement, il est plus ou moins pertinent et efficace. C'est-à-dire que un exemple que j'utilise très souvent, c'est tu penses au klaxon derrière les rues en sens unique, en camion avec des camions poubelles, hein, ou à l'accélération qu'on fait au feu orange. On sait que ça fait du bien, on sait que ça décharge éventuellement l'agacement d'être coincé ou alors l'inquiétude d'être en retard. Par contre, je suis pas complètement convaincue que ça fasse avancer le camion plus vite. Et je suis pas complètement convaincue non plus que ça apaise des relations avec le, alors je veux dire, parlerai peut-être pas des vélos, mais avec le piéton ou avec le policier qui a observé, enfin voilà, ou avec la règle, voilà. Donc en fait, je donne cette illustration pour dire qu'effectivement, on a sous pression. Il y a tout un fonctionnement dans le système nerveux et dans avec le principe des émotions qui fait que pouf, on a une décharge et on a besoin de faire sortir cette pression, cette émotion. Et ben c'est pareil avec nos décisions, c'est pareil avec nos relations et c'est pareil dans la manière dont on fonctionne en confiance. C'est-à-dire qu'on va réagir de façon automatique en fonction de ce que notre mental a capté, analysé et de ce que nos émotions ont interprété. Et du coup, une décision sous le coup de la colère ou de la peur, ça va pas être la même. Une décision en état de conscience et de prise de recul.
Ça fait.
Voilà. Donc, apprendre à repérer et qualifier les émotions, hein, ça permet d'objectiver. Ça permet d'objectiver en fait ce qui est en train de se passer en raccourci rapide dans notre cerveau ou en projection et de décider en toute conscience de maintenir ou non son comportement réactif et qui généralement le comportement réactif qu'on a, il est fait en fait pour protéger nous protéger mais pas forcément créer de la valeur. Voilà, maintenant encore une fois, la pression, c'est pas toujours synonyme de perte de contrôle. Pour certains, ça va libérer au contraire une bonne stimulation, ça va libérer de l'adrénaline et pas forcément le truc mauvais qu'on appelle le cortisol.
Parfait.
Donc voilà, donc j'essayais un peu de remettre le cadre, enfin ce que je mets derrière pression. Après, tu me dis, qu'est-ce qui se passe dans les relations, les décisions, la confiance? Ben, la pression dans les relations, qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'on l'a tous vu. La tension, voilà, des incompréhensions, des non-dits, des quiproquos, je comprends pas, il a fait ci, il m'a pas dit ça, et puis il est comme ci, il pense comme ça. Mais pour certains, la pression, ça va aussi donner plus de clarté, parce que sous pression, pouf, il y a une lumière qui se fait et on va du coup être oser dire les choses, être plus direct, être plus franc et du coup on va peut-être paraître agressif. Donc c'est pas forcément l'intention, mais vous voyez, j'utilise le mot paraître, donc ça c'est aussi une projection. On y reviendra peut-être. Dans la décision, qu'est-ce que ça donne? La pression, ça donne de la rapidité, ça donne du favoritisme, de l'iniquité, ça donne de l'absence de vue d'ensemble, de la stratégie très court terme, avec des coups, ou alors des coups à trois bandes super compliqués, mais ça peut aussi donner de la clairvoyance, hein, c'est la même chose, hein, ça, on peut clarifier. Et puis, alors la confiance, hein, je crois que c'est ton thème, le thème de la semaine. C'est tout dépend aussi de quelle confiance on parle. Si c'est celle en autrui, on peut totalement s'y abandonner comme ce parce que sous pression on file toutes les clés du camion, comme on peut au contraire remettre totalement en cause l'autre. Et si c'est celle en soi, à ce moment-là, on voit qu'en sous pression, on voit souvent apparaître des syndromes comme celui de l'imposteur, ou alors des postures de toute puissance parce que on veut tout contrôler, on est dans la surconfiance. Voilà. Enfin, dans tous les cas, ça a tendance à plutôt provoquer des extrêmes hein, dans notre capacité à se fier ou non à soi, à l'autre, dans l'incertitude. Or, c'est contre-logique parce qu'en principe, sous pression, on a plutôt besoin de confiance, de confiance dans l'inconnu, d'accepter l'incertitude, de confiance dans sa propre capacité à rebondir et à retrouver des ressources, à transformer les contraintes en opportunités. Voilà. Enfin bref, tout ça, ça dépend un peu. Mais généralement, ouais, la pression fait pas bon mélange avec confiance, lucidité et qualité relationnelle.
Complètement.
C'était un peu long. Je ne serai pas aussi longue à toutes mes réponses.
Oui, c'est hyper intéressant. Tu vois, je me permets de rebondir parce que je vais donner un exemple que tous les managers ont vécu. C'est ce moment où il y a eu un truc qui s'est mal passé, où par exemple, tu reçois un mail qui t'agace et tu veux répondre du tac au tac. Et on sait que globalement, ce mail, il ne faut pas l'envoyer. Le truc qui a été fait sur le coup de l'agacement, de la pression, on écrit tout et n'importe quoi. Et en fait, le grand classique, c'est on l'écrit, comme ça on décharge.
Exactement.
On met en brouillon et on y revient plus tard.
Et on est tous d'accord, tous coach, que c'est la recommandation qu'on fait, c'est tu n'envoies jamais le mail immédiatement.
Non, non.
Et après, qu'est-ce qui se passe quand tu le relis le lendemain?
Et là, on se dit, oh là 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 là, heureusement que je ne l'ai pas envoyé. Voilà, c'est-à-dire, on constate là, avec cette prise de recul.
Et là, on prend une prise de recul. Et après, si on va même un cran plus loin, c'est à peu près ce qui est intéressant, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui m'a fait sortir de mes gonds. Et c'est ça qui est toute une mécanique après de prise. Enfin, la prise de recul immédiate le lendemain, c'est oh là là, il ne faut pas que je l'envoie parce que ça va avoir telle conséquence. Et on va voir effectivement l'effet produit. Et ça ne va pas faire avancer le camion poubelle ou ça ne va pas nous. Voilà, c'est exactement ça. Ou ça ne va pas nous régler le. On va dire, nous faire qu'on sera à l'heure à notre réunion. Voilà. Donc, on voit la conséquence. Par contre, là où on gagnera une énorme puissance dans les moments de tension, ça sera lorsqu'on sera en capacité de comprendre ce qui nous a fait sortir de nos gonds et ce qui a fait monter la pression et ce qui a fait donc monter l'émotion. Et là, c'est un autre sujet. Voilà, je peux réouvrir, hein, mais c'est peut-être
qu'on
abordera.
Je pense que tout le monde voit bien que finalement, autour du sujet de la pression, ce n'est pas tant les situations que la manière d'y réagir, puisque finalement, les situations viendront, il y aura forcément des situations.
Ouais.
Et ça va être surtout comment on se comporte et comment on gère ces situations. C'est vrai qu'on commence déjà bien à le percevoir au travers de ce que tu nous as dit. Et donc, justement, tiens, si on va un peu plus dans le côté Sherlock Holmes, quand toi, tu es amené à faire un diagnostic de dynamique humaine sous pression au sein des entreprises, qu'est-ce qu'il faut apprendre à regarder pour comprendre ce qui se joue vraiment dans cette situation tendue?
En fait, quand tu dis diagnostic, en fait, pour moi, enfin, le truc qui est hyper important, je ne vais pas aller forcément dans la précision immédiatement, c'est déjà d'avoir le regard à 360. Parce que très souvent, on dit « c'est ça, c'est la faute A, il s'est passé ça, c'est évidemment ça ». Et alors là, en faisant ça, non seulement on risque de tomber dans... Enfin, en fait, on risque de faire une erreur de diagnostic, justement. C'est pas parce que tu as le nez qui coule que forcément, c'est qu'un rhume. Ça peut être autre chose, ça peut être plus grave, ça peut être plus profond. Il peut y avoir d'autres symptômes qu'il faut mettre côte à côte. On a cette tendance à avoir... on sait très bien le pourquoi du comment. Hein, en fait... Quand on fait un diagnostic, il faut avoir une rigueur d'analyse et d'objectivité, en fait, qui est capable de penser en étant dans le système et hors le système.
Oui.
C'est-à-dire d'avoir une position méta qui permet d'être au-dessus de la mêlée, d'aller directement à la conclusion et d'avoir un regard à 360. Donc, quand je fais un diagnostic des dynamiques humaines, généralement, je ne regarde pas que l'individu. Ce qui fait qu'une dynamique humaine, alors en plus, dynamique humaine à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, c'est encore autre chose, parce que quand c'est les équipes qui se mettent en panique, il y a les individus dans le système, mais il y a ce qui se passe aussi au niveau de entre les équipes. Donc, c'est encore un autre niveau de complexité. Mais ce qui part en vrille, en fait, c'est donc ce que je disais, c'est plutôt multifactoriel. Et la pression, en plus, amplifie tous les dysfonctionnements. En fait, c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'un tout petit truc qu'on n'imagine pas peut d'un seul coup monter dans les tours. Et là, je vois, par exemple, en ce moment, dans une équipe que j'accompagne, le diagnostic est ils ont un problème de communication, ils n'arrivent plus à se respecter, ils sont fatigués. Oui, très bien, mais d'où ça vient, ce problème de communication? Et ben, quand on creuse, c'est qu'en fait, derrière, il y a une perception de non-reconnaissance de part et d'autre de l'équipe, mais que la tête de notre reconnaissance vient en fait de choix de gouvernance et de choix de décision sur des statuts de la part de l'entreprise. Et en fait, tout ça fait qu'en fait, ça se prend le bec entre des personnes qui n'ont rien à voir avec ça, enfin, qui n'ont pas pris la décision. Oui. Mais ça, et donc, on essaie de résoudre la surface, alors qu'en fait, le sujet, il est ailleurs. Donc, ça, et plein de fois, on ne résout pas. Et moi, j'interviens et on me dit, mais on a déjà essayé 36 000 fois. Oui, mais vous avez fait le diagnostic, vous avez été hyper rapidement, vous n'avez pas regardé les causes profondes et surtout le multifactoriel. Donc, ce que je regarde, en fait, pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut penser, il y a ce qui est du champ émotionnel, mais il y a aussi le relationnel, il y a l'organisationnel, il y a le contextuel, il y a le culturel, il y a l'individuel, il y a le collectif. Et tout ça, ça se croise. Donc, pour décomplexifier, la première piste déjà, c'est de rien conclure rapidement, c'est ce que je disais, et de pas avoir de certitude, ce qui est complètement opposé à notre cerveau, à nos besoins de notre cerveau, qui aime être prédictif et qui aime avoir contrôlé, parce que lui, il a besoin de contrôler sa survie, son machin, enfin son mode de fonctionnement, donc c'est pas le réflexe naturel. Donc il faut reprendre le pouvoir sur son mental pour observer et comprendre ce qui se passe. Oui. Et quand c'est à l'échelle de l'individu qu'on a retenu ce fameux mail-là et qu'il n'est pas parti, très bien, mais du coup, c'est vachement intéressant à l'échelle individu après de faire cette prise de recul et de se dire qu'est-ce que dans cette situation-là qui fait que j'ai eu cette émotion, qui fait que j'ai failli envoyer le mail, que j'ai failli appuyer sur le klaxon, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que je me suis dit dans cette situation bien précise et qu'est-ce qui a augmenté qu'est-ce qui a augmenté ma confusion, qu'est-ce qui a augmenté le fait que j'ai voulu y aller. Et généralement, on va se rendre compte que dans ce qu'on se dit, il y a des biais cognitifs de généralisation où on se dit, ah, c'est encore lui qui a fait ça, ou c'est à chaque fois comme ça, ou j'ai reçu un mail où il y a il faut que, et le il faut, il m'a fait bondir, ou moi-même, je me dis, ça peut être d'autres situations où je me dis, c'est bon, dans mon rôle, c'est à moi de faire, c'est comme ça, c'est toujours, c'est jamais. Donc là, c'est des espèces de programmations de schémas mentaux, qui en fait nous piègent. Ils sont complètement dicotomes. Enfin, ils nous amènent à. Ils veulent, en voulant décomplexifier les choses, en fait, on les rend plus complexes. En voulant être dans cette dichotomie blanche-noire avec à chercher des vérités, on rend les choses beaucoup plus complexes. Voilà. Et si on arrive à détricoter ce schéma mental, on va petit à petit identifier nos valeurs qui sont touchées, de respect, de reconnaissance, comme je pouvais l'évoquer, par exemple, ou de jeu collectif. On va pouvoir effectivement identifier nos besoins. Là, j'ai besoin d'être rassuré. Là, j'ai besoin d'être écouté. Enfin, voilà. Ou là, j'ai besoin. Enfin, on va identifier le besoin. Et lorsqu'on pourra identifier nos valeurs, nos besoins qui sont respectés ou non, les croyances, là, les phrases qui nous piègent, et ben à ce moment-là, on va effectivement pouvoir se dire, OK, la prochaine fois que la situation arrive, qu'est-ce que je vais mettre en place ou pour éviter que cette situation arrive, qu'est-ce que je vais mettre en place pour éviter de me prendre le mec qui m'énerve, la remarque du chef, ou ne pas savoir me retrouver passif à un moment donné, enfin, ne pas avoir le comportement que je sens bien qui ne me convient pas. Voilà. Et du coup, être plus aligné et créer de la valeur. Ou faire face à un environnement qui me convient pas aussi. C'est d'arriver à comprendre quel est mon besoin et comment, et après me remettre en mouvement pour obtenir mon besoin.
Tout à fait. D'ailleurs, je rebondis. Je crois que j'avais vu une fois une intervention qui disait que justement, une des plus grandes formes d'intelligence, c'était cette capacité à être dans cette position méta, de métacognition. C'est-à-dire finalement être dans l'auto-analyse et observer nos propres comportements.
Après, je ne sais pas si c'est une plus grande forme d'intelligence. En tout cas, on l'a tous en nous et plus ou moins développé parce que ça s'entraîne, en fait.
Oui, tout à fait. Et après, on sait que le QI peut se muscler. Donc, peut-être que c'est aussi une chose hyper intéressante, en effet, à développer. Mais globalement, oui, comme on ne peut changer que ce dont on a conscience, si on ne sait pas qu'il y a ça, ben, on n'arrive pas à le travailler. Donc, en effet, c'est le premier travail. Merci beaucoup. Alors justement, tiens, dans ces moments de tension, dans ces situations, tu as certains managers qui cherchent à prendre le contrôle, t'en parlais, d'autres qui vont peut-être fuir le conflit, surréagir, tout ça. Pourquoi, justement, cette pression fait ressortir nos automatismes les plus rigides?
Alors, c'est un peu ça que je programmais tout à l'heure, enfin que je disais, on a notre cerveau, enfin on a notre mental, notre cerveau qui a besoin, pour nous protéger physiquement, mais aussi le système nerveux, il a besoin en fait de mettre en place des automatismes de protection. Ouais. Donc effectivement, c'est comme ça que nous sommes, en fait, c'est comme ça que nous sommes conçus. Alors après, les automatismes rigides, en fait, il y a deux choses dans la rigidité. C'est que soit on est né, entre guillemets, avec ce qu'on appelle les fonctions exécutives du cerveau, qui sont la mémorisation, l'impulsivité, enfin la capacité à être plus ou moins impulsif, qui est du coup l'inhibition, la flexibilité, voir les choses, avoir différentes manières de voir les choses, la mémoire. En fait, les fonctions exécutives du cerveau, c'est l'inhibition, la flexibilité, la mémoire, la planification. Et face à ces fonctions-là, suivant celles où on est fort, plus ou moins fort et plus ou moins, on va dire, doté, on n'est pas du tout tous égaux face à l'anxiété, face au respect ou non du cadre. Donc là-dessus, on est tous différents. Après, c'est pour ça que tu as des gens, tout le monde va réagir différemment. Et la pression va faire que notre cerveau va aller directement sur l'autoroute de la manière dont on est câblé le plus facilement. Oui. Donc, celui qui a besoin d'être dans la planification, il va de suite anticiper le coup à trois bandes, le machin, il va tout mettre dans son agenda, etc. Celui qui aura plus de difficultés à inhiber une réaction et qui va être dans l'impulsivité, on va le voir partir en bombe. Parce que jusqu'à présent, c'était cette impulsivité qui l'avait mis plus, qui comment dire, c'est comme ça qu'il est programmé, en fait, j'ai envie de dire. Il y a une forme de programmation. Après, on est tous aussi différents en fonction de nos structures de personnalité, qui sont liées à aussi notre histoire personnelle. On est tous aussi différents en fonction de troubles de l'humeur, en fonction de nos cultures, en fonction de nos valeurs. Donc, tout ça va faire qu'on va avoir une réaction plus ou moins différente. Et après, la rigidification, c'est ce que je disais, c'est l'autoroute. Hein, c'est que le cerveau, sous pression, il met des réponses déjà connues pour nous réguler, éviter que notre corps et notre système nerveux soient déstabilisés. Parce qu'en fait, la pression, c'est de l'émotion. Et la pression, on la ressent à l'intérieur. Et si on la ressent trop à l'intérieur, à un moment donné, toute notre énergie, notre système nerveux va se mettre en situation de nous faire baisser à l'intérieur pour protéger nos organes vitaux, notre cœur, notre respiration, notre santé physique, en fait. La priorité de notre système nerveux, c'est de protéger notre santé physique. Mais cette réponse, je veux dire, acquise, rapide, de rigidité, pour nous protéger sur notre système physique, elle fonctionne dans des logiques instinctives, mais dans les relations et dans le champ humain, pas vraiment. Enfin, il faut mettre un peu de prise de recul, comme on le disait. Donc ça, c'est à avoir à l'esprit. Donc en fait, effectivement, pourquoi la pression, ça fait ressortir nos automatismes? C'est avant tout pour nous protéger, en fait. C'est surtout ça. Mais après, sont-ils adaptés ou pas?
C'est ça. Alors, ça me fait beaucoup penser, alors, je ne sais pas si tu l'as lu, au livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Ouais. Voilà. Ou grosso modo, l'essentiel du temps, on fonctionne de manière automatique réflexe, le fameux système 1, et qui est très énergivore et qui en effet va vite et nous permet de gérer l'essentiel des situations globalement. Et après, de temps en temps, le système 1, on constate que ça atteint ses limites et de temps en temps, on va réfléchir.
En fait, il faut entraîner, c'est quand tu dis le temps en temps, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à voir à quel moment le système 1 nous met en non-création de valeur, je préfère ce mot à inefficacité, pour soi ou pour les autres, et à du coup à ce moment-là, faire le step back, le pas de recul et de se questionner pour qu'est-ce que je peux changer dans ma manière d'appréhender la situation de façon à recréer de la valeur. Mais ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est là où on active le système de.
Tout à fait. Et d'ailleurs, si tu es OK, tout à l'heure, je te partagerai ma technique que j'utilise pour me mettre en position méta. Tu me diras, tu pourras peut-être me donner ton avis d'experte.
Je partage aussi cette expertise. mais généralement, effectivement, alors tu vas me donner ta technique, mais oui, je veux bien la partager maintenant. Non, tu veux pas me la donner
maintenant, si tu veux, allons-y maintenant. Alors, vous allez voir, c'est ultra pointu. Hein. C'est la technique du intéressant.
En vrai,
quand il y a une situation qui m'énerve, où je sens que ça vient me chercher hein, et que je suis sur le point de réagir, je me fais un stop et intérieurement, je me dis intéressant. Qu'est-ce qui te fait que ça te fait monter ? Et je me pose des questions. Qu'est-ce qui te fait que ça te fait monter en pression là ? Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Maintenant, observe. Tiens, écoute. Est-ce que cette personne a bien voulu dire ça ? Et en bref, je passe en mode questionnement, auto-questionnement.
Oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Voilà.
Et toi, ce qui te permet de basculer. Il y en a, ça va être le post-it rose sur le mur. Toi, c'est
C'est ça. Voilà. C'est ça de me dire, prends du recul.
Prends du recul. Mais ça, tu as pu le faire parce que tu as d'abord, effectivement, tu as déjà modélisé les choses. Et que du coup, tu t'es dit, tiens, j'ai ce warning, enfin, je cherche le mot, je ne trouve pas le mot, mais il y a ce petit mot-là qui va m'aider à basculer. Mais ce que tu dis aussi, c'est que c'est intérieurement. Et c'est vrai que très souvent, quand on repart dans le corps, c'est là où, en fait, on peut aussi faire baisser toute la mécanique qui rigidifie nos positionnements. Parce qu'en fait, nos réactions automatiques comportementales, elles viennent donc de ce que j'évoque, les émotions, qui viennent de ce qu'on se dit, ce qu'on se raconte, notre mental. Et notre mental, il pédale sur son petit vélo dès qu'il y a le champ émotionnel et dès qu'il y a de la pression. Et donc, il faut faire baisser la pression. Toi, tu dis, OK, je repars à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment ça, c'est repartir pour faire baisser la pression, il faut repartir à l'intérieur de son corps. Et il y en a, ça va passer par je respire, je bois un verre d'eau, je vais attraper quelque chose. En fait, je vais attraper quelque chose dans, je vais toucher quelque chose ou je sais pas quoi. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un signal pour décrocher le mental. Ouais.
Oui, tout à fait, ouais.
Bon, et après, je te coupe juste parce que du coup, ça me fait penser quand tu parles de ça. Je me dis aussi après, pour éviter que ça se rigidifie, parce que si ça se rigidifie, c'est que le truc, on y a quand même été. Je parlais d'autoroute tout à l'heure, hein, donc ça veut dire que on n'y est pas passé qu'une fois dans le chemin de traverse. Hein, donc on l'a tellement passé que c'est devenu une autoroute le truc et que pouf, on signe en gouffre direct. Et donc on va, c'est parfois là, toi, tu as cette expérience qui te permet de faire ça, mais au tout début dans les coachings, les coachés, ils y vont dans le mur. Ils y vont et ça, ils voient. Et donc, la première chose, c'est d'observer avec la position méta qu'on y va dans le mur et de se dire, d'être compassionnel avec soi et de se dire, c'est pas grave. J'y suis allée, donc je cherche à comprendre le pourquoi, le machin, et puis de me dire, la fois prochaine, comment j'évite d'aller dans le mur. Et puis, il y a l'autre moyen qui est donc de respirer, de penser à mon truc, etc., enfin de pas réagir immédiatement. Et après, il y a pour éviter que ça devienne une autoroute. En fait, c'est extrêmement important de prendre soin de son système nerveux et de prendre soin de son équilibre de vie. Voilà. Oui. Et c'est là aussi où plus on mettra en pratique des temps où on prend l'habitude d'être en conscience de ce qu'on fait, plus on pourra à chaud dans nos réactions être en conscience de nos réactions automatiques et sortir la petite phrase comme tu le fais. C'est-à-dire que sortir la petite phrase comme tu le fais, il faut quand même avoir la capacité en position méta de se dire il faut que je le fasse là maintenant parce que là sinon je vais dans le mur et il faut que je le fasse maintenant parce que je suis en capacité d'être en conscience. Et pour être en capacité d'être en conscience, on parle de la pleine conscience. Je dirais pas forcément méditation c'est une possibilité, mais on peut être en pleine conscience en faisant du jardinage, du bricolage, du puzzle, des Lego avec ses gamins. Ce qui compte, c'est à un moment donné de redescendre dans une action, physique, sensorielle, dans laquelle, en fait, on a débranché le mental et on est juste concentré sur le mouvement et sur l'instant présent. Et plus on habitue notre cerveau à faire ça, moins on se prendra l'autoroute à 300 km/h. Parce que là, on se dira, il est où le panneau ? Attends, non, il faut que j'aille des sorties dérivées. Oui, parce qu'on regardera les panneaux, alors que sinon, on ne les regarde pas.
Voilà. On a le frein, c'est pratique. On a le frein pour que ça démarre, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Ouais. Alors, on vient de parler beaucoup à titre individuel. Alors justement, quand les enjeux grandissent, si on passe maintenant d'un point de vue collectif, qu'est-ce qui permet qu'une équipe n'aille pas se refermer sur sa peur, la méfiance ou les jeux de pouvoir?
Ouais, c'est surtout quand, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même vachement compliqué. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je disais multifactoriel, mais qu'est-ce qui, parce que une équipe, la difficulté qu'il y a, c'est que on a tous nos neurones miroirs et on l'a tous vu. Quand quelqu'un fait la gueule, on a tendance à tous faire. Quand on est quelqu'un et je prends une union, on a tendance à devenir je prends une union. On a une forme de contagion émotionnelle. Alors, on n'est pas tous pareils là-dessus, mais voilà, il y a quand même ce piège. Donc entre le psychique des gens, il peut se passer quand même un certain nombre de choses. Donc pour éviter qu'une équipe se renferme, eh bien, il va falloir effectivement que l'équipe arrive déjà à... En fait, plus l'équipe, c'est comme l'histoire de l'autoroute, c'est-à-dire que plus l'équipe a l'habitude de collaborer, plus elle a appris à collaborer, plus, comme le cerveau se muscle, hein, enfin que tout ça, enfin même si c'est pas un vrai muscle, mais plus elle a pris l'habitude de développer des comportements qui font que elle prend du plaisir, parce que dans les émotions, il y a aussi celle du plaisir. Donc, elle a pris l'habitude de développer des comportements de plaisir, à travailler ensemble, et plus elle est dans la fierté de travailler ensemble, plus il y a de chance, en fait, et moins il y a de risque, que quand les enjeux grandissent, ça part en panade. C'est-à-dire que c'est comme tout à l'heure, quand je parlais du pulse zone, c'est plus on anticipe, plus on a des bonnes pratiques et des bonnes hygiènes en amont de la pression, plus... Au moment où la pression arrive, on tombe pas, on se fait pas déborder, j'ai envie de dire.
Oui, on a plus de capacité d'absorber.
Exactement. Donc ça, et du coup, on évitera les comportements d'attaque, de défense, les jeux de pouvoir, la peur, la méfiance, parce que on a une bonne base sécure à l'origine sur du plaisir, comme je disais, de la fierté, de la pratique de collaboration. Après, si jamais on y est, quand les enjeux grandissent, qu'est-ce qui fait que l'équipe va permettre, si on y est et qu'il n'y avait pas cette base, de ne pas se renformer, c'est de se dire les choses. Et là, il va falloir oser se les dire. Mais c'est de poser l'éléphant au milieu de la pièce, de ne pas laisser des non-dits. Les non-dits, c'est horrible. Et tout à l'heure, je parlais des projections, des interprétations, des comparaisons. Et là, on pourrait dire que c'est l'ego qui rentre en ligne de compte. Alors, j'irai revenir sur les niveaux de comportement sans aller sur un jugement de dire c'est l'ego ou pas l'ego. Parce que dire que c'est l'ego, c'est aussi une manière d'alimenter le conflit et d'alimenter l'autre, il est pas bien, et gna gna gna, etc. Ce qui compte à ce moment-là, c'est déjà d'oser dire quand ça va pas, d'oser dire ce qui est pas OK, sans accuser l'autre. Donc, c'est le fameux feedback qui est effectivement clé. Maintenant, encore une fois, plus on a l'habitude de le pratiquer quand tout va bien ou en situation de moindre tension, plus c'est facile effectivement de le faire sous tension. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que... Il faut faire gaffe parce que dans les jeux de pouvoir, la peur et la méfiance, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément que des sujets de relations. Il faut aussi analyser le système. Souvent, c'est des rôles et responsabilités qui sont pas clairs. Souvent, c'est des choix de gouvernance qui complexifient les choses. C'est des objectifs contradictoires. C'est on te demande de pas être silo, mais on t'a objectivé sur ton entretien annuel, sur ta performance personnelle. Enfin, bon, il y a des ambiguïtés et des injonctions paradoxales qui peuvent aussi créer ça. Et ce qui est important, c'est de pouvoir les mettre à plat, les nommer et défaire, dégonfler le ballon de baudruche entre les individus. Voilà. Et c'est ce qui compte effectivement, c'est de reconnecter avec le plaisir de travailler ensemble et de reconnecter avec la complémentarité aussi des uns et des autres. C'est quand les enjeux grandissent à ce moment-là, ce qui est plus, chacun doit aussi tenir son poste et on doit faire confiance dans le fait que chacun tient son poste. Donc on va avoir confiance dans les compétences de l'autre. Mais bon, la confiance, elle se décrète ou elle se donne, j'en sais rien, mais en fait, elle s'entretient avant que les enjeux grandissent.
Voilà. Exactement. Donc, en fait, déjà, en effet, d'avoir un environnement, on va dire, clair, où les périmètres sont clairs, où il y a de la confiance, où il y a de la communication, forcément, déjà, ça va bien nous faciliter.
Ouais, et puis je rebondis sur autre chose, c'est-à-dire que c'est aussi être au clair qu'on est dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que on n'est pas obligé, parce que tu parlais de peur, de méfiance, de jeu de pouvoir, ça vient aussi souvent d'attentes déçues. Oui. On a vis-à-vis de quelqu'un à côté qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça, puis moi je l'ai fait, et puis de contrats implicites, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, on a tous des modes de fonctionnement différents. C'est important d'être au clair sur comment est-ce qu'on veut travailler ensemble et quand ça dysfonctionne, d'oser se le dire avant que le tuyau de la relation soit complètement bouché.
Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup.
De rien.
Alors,
ça en fait des sujets, je vois qu'il est déjà...
Ah oui. Alors, tiens, on va aller... parce que de toute façon, c'est, je dirais que c'est une suite logique. Bon, allez, je dois prendre une décision difficile. Je suis manager. Je dois, par exemple, arbitrer un conflit, annoncer une décision qui est top. Comment est-ce que je peux rester le plus juste dans ma manière de faire sans détériorer la confiance avec les autres?
Compliqué, hein?
Oui.
J'aime bien dans ta phrase le plus juste sans perdre la confiance. Là, on est. Je vais être un peu provoque. On n'est peut-être pas très loin d'un exemple de phrase, de schéma dichotomique, de pensée qu'on a dans notre mental qui nous fout de la pression.
Mmh.
Voilà. Il faut que je sois juste sans perdre la confiance. Dans une décision difficile.
C'est ça.
Il faut peut-être aussi accepter que il va se passer quelque chose que je ne contrôlerai pas, que l'autre il va réagir d'une certaine manière et que ce n'est pas 100% sous mon contrôle. Voilà. voilà. Et donc d'être à l'aise avec l'incertitude de la réaction de l'autre. Voilà. Parce que si on essaye de faire tout pour que l'autre il réagisse de telle manière, on va se prendre les pieds dans le tapis. Hein. Ça, c'est à peu près clair. Alors, comment on fait? Parce que là, ce que tu me dis, ça me commence à me rappeler les situations justement qu'on a dans le SAV.
D'accord.
Qu'on a dans les petits cailloux. C'est-à-dire que c'est typiquement, voilà, j'ai une décision, je dois annoncer qu'il y a une augmentation ou j'ai deux personnes dans mon équipe, comment je fais? Alors, tu utilisais le mot arbitrer. Moi, je suis plutôt sous réguler parce que si on se retrouve en position d'arbitre, je suis pas sûre qu'on soit totalement à la juste place, parce que là, on tombe dans ce qu'on appelle le triangle, après, où il dit, il y a un méchant, un gentil. Ben, non, c'est les gens, vous êtes adultes, donc vous trouvez un moyen de fonctionner ensemble et de remettre en place un dialogue. Par contre, parfois, c'est tellement dégradé, qu'il y a besoin de l'aide d'un tiers externe pour aider à restaurer le dialogue. Et ça, c'est de la responsabilité, effectivement, du manager de mettre en place le moyen qui va permettre de réguler le conflit. Alors, comment est-ce qu'il peut rester juste? Déjà, c'est quoi juste? Ça dépend de ses valeurs d'équité, voilà. Et puis, il est juste de quel point de vue? Parce que tu connais l'image du 6 et du 9, ou suivant le point de vue, il y en a qui vont dire le 6, c'est juste. Ah non, c'est juste le 9. Non, c'est juste le 6. Ah, bah oui, mais les deux sont justes. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Donc, c'est toujours le sujet, effectivement, aussi de où est la… Voilà, on a des différences de perception, des différences de les uns les autres. Moi, je dirais que l'enjeu, en fait, c'est pas tant de rester juste sans perdre confiance. C'est quand il doit quand le manager, il a une décision difficile, enfin, il a un truc merdique à faire et qu'il le plan comme c'est. Déjà, c'est que lui, il écoute, il fasse sa position méta sur lui-même, comme on évoquait tout à l'heure, et qu'il écoute ce que lui, ça lui refait, cette décision. Est-ce qu'il est d'accord, pas d'accord avec? Est-ce qu'il est à l'aise, pas à l'aise avec? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est triste parce que ça le démotive? Ou est-ce que lui-même se situe par rapport à cette décision, parce qu'en fonction de ça, il va pas se faire déborder, il aura pas les mêmes croyances, les mêmes raisonnements, il va pas se faire déborder de la même manière. S'il est inquiet, il va projeter que les autres sont inquiets, il va devenir par systémie inquiet de la manière de l'annoncer. S'il est en colère, il peut être moins dans l'écoute. Voilà, ça va déclencher aussi chez lui des comportements réactifs, comme je l'évoquais. Donc la première étape, c'est que il prenne son propre recul, en apprenant à repérer ses émotions, les conséquences que ça peut avoir sur ses propres comportements. Quand il se dit qu'il se mette pas la pression sur ses fameux objectifs, donc comme je disais, qu'il accepte, voilà, qu'il ne pourra pas forcément obtenir ce qu'il souhaite. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il doit s'aligner sur l'intention qu'il veut produire par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si son intention c'est pas juste annoncer la décision. Son intention, c'est que l'autre, c'est d'accueillir l'autre dans sa réaction. Si l'intention, c'est de donner du sens. Si son intention, c'est en fait, il doit pouvoir définir l'objectif qu'il veut atteindre dans la manière dont il va exprimer ou présenter les choses. C'est plutôt ça qui est important. C'est pas tant je dois agir la trouille, je dois annoncer ça, c'est OK. On a décidé qu'il fallait revenir. Par exemple, si je prends un des exemples qu'il y a dans les petits cailloux, c'est la non-augmentation. Je dois annoncer qu'il n'y aura pas de non-augmentation à la fin de l'année, j'ai la trouille, je ne sais pas comment ça va se passer. Ils ont tous bossé comme des malades. C'était un cas que nous avait apporté un manager. Il flippait à l'idée de devoir faire cette annonce. Il voulait pas démotiver son équipe, etc. Le piège à ça, c'est de vouloir de suite dire mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ou je comprends, t'as fait du bon boulot, et d'empêcher l'autre de dire ah ouais, je suis pas content. Bah ouais, l'autre il a le droit de dire je suis pas content. Et puis après, c'est de dire à l'autre, moi c'est aussi de pouvoir dans son intention dire bah moi je reconnais ton travail. Maintenant je ne suis pas je ne suis pas responsable de cette. Enfin, je ne suis pas responsable. Il ne faut pas non plus se défausser, mais c'est de pouvoir remettre le contexte qui explique et qui donne du sens. Et après, c'est de pouvoir dire, OK, compte tenu de ça, voilà, comment est-ce que toi tu veux continuer? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu veux avancer? Et en fait, c'est plutôt de maintenir la collaboration. Mais c'est parce qu'il serait dans l'intention de maintenir une collaboration. Il faut qu'il se pose la question de voir qu'est-ce qui est important pour lui et d'agir en fonction de ça.
Ok. Allez, une dernière question. Peut-être que la réponse, tu nous l'as déjà donnée. C'est fort possible parce que tu nous as déjà donné plein d'astuces. On a un manager ou un dirigeant qui sent que la pression commence à monter et qu'elle commence à l'emporter sur sa lucidité. C'est quoi pour toi la première pratique que tu lui proposerais pour l'aider à retrouver du discernement, de manière à pouvoir à nouveau agir de manière plus efficace?
Se reposer. Il y a la pression et oui, il est urgent d'arrêter. Il est urgent à ce moment-là de prendre le temps de se reposer. Quand on sent qu'on commence à dérailler, hein, c'est vraiment le premier truc à faire.
Faudrait dépressuriser alors.
Ouais, il faut dépressuriser effectivement, et pour dépressuriser, il faut faire attention à son sommeil. Il faut donner la possibilité au corps de se reposer en revenant sur les situations de pleine conscience que j'évoquais, de faire du bricolage, du jardinage, des puzzles, voilà, écouter ce que dit son corps pour éviter en fait que le mental reprenne le dessus. Après, il y a aussi autre chose, c'est de considérer que son agenda est un ami. Très souvent, la pression, elle vient du fait qu'on est complètement désorganisé. Alors après, ça dépend des gens, mais encore une fois, parce que j'ai dit que tout le monde était différent, mais c'est de reprendre la main sur son agenda. Alors beaucoup de fois en coaching, on me dit, ben non, c'est pas possible. Si, c'est possible si on se pose et si on déglobalise et si on se dit, si on sort du jamais toujours la faute des autres et qu'on regarde et qu'on objective et qu'on fait l'analyse de toutes les réunions où on est posé et qu'on voit celles où on est utile, pas utile et où on essaye de remettre des blocs ou en tout cas de sacraliser. Des temps pour avoir des temps de prise de recul, des temps où on se pose. Alors certains diront c'est à 22h, très bien si ça les rend heureux et que ça les, il y en a, ils bossent vachement mieux le soir. Moi j'ai pas de problème là-dessus, mais faut pas que ça soit parce que je suis obligée. Il faut que ça soit une énergie positive. Et puis après le troisième truc et astuce, c'est de faire appel à un ami. C'est pas rester seul. Alors pas celui qui est toujours d'accord avec toi, qui va alimenter ton petit mental, ton mécanisme, ton chponionieux, etc. Mais celui qui va t'aider à te reprendre en position méta, c'est comme dans, tu sais, c'est comme dans Mario Kart, ces petits nuages là. Et ça, t'as les groupes de codev entre pairs, t'as les coachs, voilà, t'as les podcasts qu'on fait. Les podcasts qu'on fait là, c'est typiquement aussi les écouter un podcast, ça peut aider.
Bien sûr. Voilà, c'est
les petites pistes et les petits trucs qu'on peut donner.
Merci infiniment, Aurélie, pour toutes ces clés qui sont précieuses. Si on veut te retrouver, alors tu nous as parlé du livre, tu nous as parlé du podcast. Est-ce qu'il y a un autre moyen de te suivre ou de te connecter?
Le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Voilà, Voilà, c'est là, c'est ma seule clé d'entrée. Vous ne me trouverez sur aucun autre réseau. C'est vraiment là où je suis. Et après, mon adresse mail, elle est facile. C'est ad.aurelie.durand@tajadi.fr. Mais sur LinkedIn, Durand Aurélie, on trouve. Et effectivement, moi, je serais ravie, toujours disponible pour accompagner et détricoter les petits cailloux du quotidien, mais aussi aider à prendre du recul voilà, sur toutes ces dimensions qui sont très complexes lorsque la pression monte. Voilà, puisque comme je l'ai dit, l'objectif, c'est qu'on recrée tous de la valeur ensemble.
Tout à fait. Recréons de la valeur ensemble. Merci infiniment, Aurélie.
C'est surtout merci à toi, Clément, pour cette proposition et cette invitation, puis cette offre que tu fais à tout le monde de prendre ce temps de recul.
Avec grand plaisir. Et en effet, comme quoi nous sommes pleinement alignés, ça, en effet, c'est quelque chose de très important. Donc, merci pour toutes ces pépites que tu nous as offertes. On mettra toutes tes coordonnées, les liens, justement, en dessous de cette vidéo. J'espère que, justement, Aurélie vous aura aidé à pouvoir prendre de la hauteur sur certaines situations que vous êtes amenées à gérer et la manière dont vous réagissez pour pouvoir les gérer. Mille fois merci encore, Aurélie.
De rien, avec plaisir. Merci à toi et merci à vous tous pour votre attention et votre écoute.
À bientôt. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.